de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Pour commencer notre émission, nous allons présenter d'abord le Kaléidoscope 2019 qui sera continué avec magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le Kaléidoscope 2019.
La Voix de l'Indonésie présente la Kaléidoscope 2019 de juillet à décembre 2019. Nous présentons des événements importants pendant 2019, présentés par Muhammad Udri et Tiwi Shakila.
Nous passons maintenant au mois de juillet. Les 4 et 5, le président Joko Widodo, lors d'une série de visites de travail dans la province de Sulawesi du Nord, s'est rendu au port de Bitung pour encourager les exportations-importations via le port. Le président Joko Widodo a déclaré que beaucoup souhaitaient investir dans Bitung. Le port de Bitung est un port international destiné à soutenir le développement de la zone économique spéciale de Bitung, qui est déclarée comme l'une des priorités de développement du gouvernement. L'existence du port de Bitung soutiendra également les activités industrielles dans l'est de l'Indonésie, notamment à Ambon et Ternate, ainsi qu'à Samarinda, Balikpapan, Tarakan et Nunukan. Du 9 au 15, le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture, en coopération avec le secrétariat de l'ASEAN, a organisé le Festival de danse contemporaine de l'ASEAN à Yogyakarta. Ce spectacle régional et spectacle de dialogue sur le monde de la danse contemporaine ont impliqué 10 délégués des pays de l'ASEAN, à savoir Brunei Darussalam, Cambodge, l'Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. Yogyakarta a été choisie comme lieu de l'événement car elle a une longue histoire et une contribution continue à la création et au développement de la culture, non seulement pour l'Indonésie, mais aussi pour la région. En outre, Yogyakarta a été désignée ville de la culture de l'ASEAN pour la période 2018-2020. Lors de la 8e session du ministre de la Culture de l'ASEAN l'année dernière. Le 19 juillet, le président Joko Widodo a libéré le contingent du mouvement scout indonésien du 24e Jamboree Scout Mondial au palais Merdeka Jakarta. Dans sa direction, le président a conseillé que le contingent indonésien soit un ambassadeur qui porte la bonne réputation et l'image positive de la nation indonésienne au niveau mondial. Le président espère qu'en tant que pays comptant un grand nombre de membres scouts, les scouts indonésiens jouent également un rôle actif dans le soutien du développement mondial.
Dengan jumlah anggota gerakan pramuka Indonesia yang mencapai 25 juta orang dari kurang lebih 50 juta anggota PAN.
Avec le nombre de membres du mouvement scout indonésien atteignant 25 millions de personnes provenant d'environ 50 millions de membres scouts dans le monde. Cela signifie que la moitié des membres scouts mondiaux sont indonésiens. Par conséquent, le mouvement scout indonésien doit jouer un rôle actif dans les activités du mouvement scout mondial. Parce que selon le slogan, les scouts ont créé un monde meilleur. Des slogans conformes à la vision et à la mission de notre pays de construire une fraternité universelle et de créer un monde meilleur, pacifique et socialement juste. L'Indonésie a envoyé jusqu'à 80 personnes du contingent du mouvement scout indonésien au Jamboree qui s'est déroulé en Virginie-Occidentale aux États-Unis. Sur les 80 personnes, 67 d'entre elles sont membres du niveau indonésien du scoutisme et de l'application des lois âgées de 14 à 17 ans, tandis que 13 autres sont des mentors qui ont aidé pendant le Jamboree mondial. Nous passons maintenant au mois d'août. Le président Joko Widodo a inauguré le nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN dans la région de Jakarta Sud. Le nouveau bâtiment est situé derrière l'ancien bâtiment du secrétariat de l'ASEAN. Dans ses remarques, le président Joko Widodo a mentionné un certain nombre de défis auxquels l'ASEAN sera confronté à l'avenir. À partir de la lutte acharnée des puissances, des grandes puissances mondiales jusqu'à la pertinence de l'ASEAN pour répondre à tous les défis mondiaux futurs. À cet égard, le président a déclaré que l'Indonésie était déterminée à continuer de soutenir l'ASEAN. Ce soutien est apporté pour que l'ASEAN puisse répondre aux défis de l'époque et répondre aux questions de la société, notamment dans la région. Une forme de soutien de l'Indonésie est la construction d'un nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN.
Kedepan tantangan ASEAN untuk 50 tahun tidaklah mudah. Tarik menarik antara kekuatan besar sudah dapat dipastikan akan semakin.
À l'avenir, les défis de l'ASEAN depuis 50 ans ne sont pas faciles. La lutte acharnée entre les grandes forces sera certainement plus nette. Dans nos pays respectifs, les gens continueront de demander les avantages de l'ASEAN pour les habitants de l'ASEAN. L'ASEAN doit donc maintenir sa réputation concernant les nouveaux développements dans le monde pertinents pour la réalisation des intérêts de la population de l'ASEAN. L'ASEAN doit travailler plus rapidement pour répondre très rapidement aux changements. Tout va vite. L'ASEAN doit évoluer rapidement et solidement en tant qu'hôte. L'Indonésie s'efforce de faciliter la tâche de l'ASEAN dans son travail rapide et solide, efficace et efficient. Dans cet esprit, nous avons construit le bâtiment ASEAN. Ce nouveau bâtiment montre le nouvel esprit de l'ASEAN, reflétant le nouveau ASEAN. Et j'espère qu'à l'avenir, la plupart des activités de l'ASEAN devraient être menées dans ce bâtiment. Le nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN comprend deux tours de 16 étages chacune. Également présente lors de l'inauguration du nouveau bâtiment du secrétariat de l'ASEAN, un certain nombre de ministres du cabinet de travail, des ministres des pays amis, des représentants des pays amis en Indonésie, le secrétaire général de l'ASEAN et le gouverneur de DKI Jakarta. Le 16 août, le président Joko Widodo a exprimé son optimisme quant à la poursuite de la croissance de l'économie indonésienne, même si l'économie mondiale ralentit. Lors de la remise de la déclaration du gouvernement sur le projet de la loi sur le budget de l'État pour l'exercice budgétaire 2020 et de sa note financière. Au bâtiment de la Chambre des représentants indonésienne à Jakarta, a souligné le président Joko Widodo l'une des clés pour le peuple indonésien pour aller de l'avant était d'augmenter la compétitivité nationale en misant sur la qualité des ressources humaines. La qualité des ressources humaines est un capital important pour entrer dans l'ère de l'économie numérique.
Indonesia memiliki modal awal bersaing di tingkat global. Jumlah penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda.
L'Indonésie dispose d'un capital initial pour être compétitif au niveau mondial. Notre population est la quatrième en importance au monde. La majeure partie de notre population est jeune. Notre classe moyenne se développe rapidement. Je suis sûr qu'en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité des ressources humaines, l'Indonésie peut immédiatement réaliser sa vision de devenir un pays développé. Nous prouvons que l'Indonésie est digne et capable de devenir l'une des puissances économiques mondiales. Nous montrons que l'économie indonésienne est en croissance et capable de fournir un sentiment de justice. Nous réalisons l'économie indonésienne qui apporte la prospérité à tout le peuple indonésien. Le président Joko Widodo a invité toutes les parties à participer à la mobilisation de toutes les ressources économiques pour réaliser des progrès pour le peuple indonésien. Le 27, le président Joko Widodo a reçu la visite du roi de Malaisie, le 16e Malaisien Agong Pertuan al-Sultan Abdullah Riayatuddin al-Mustafa Billah Shah au palais d'État de Bogor, à l'ouest de Java. Au cours de la visite, le président Joko Widodo et le roi malaisien ont discuté de plusieurs collaborations, notamment dans le secteur économique et la protection des citoyens indonésiens en Malaisie. Le président a expliqué que pour la coopération économique, l'Indonésie et la Malaisie ont convenu de renforcer la coopération mutuelle dans le commerce et l'investissement. Pour répondre aux défis des développements technologiques et de la perturbation des médias, le personnel radio de divers pays, en particulier d'Asie, a assisté à la conférence Radio Days Asia 2019. À Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaisie, les 27 et 28 août. Radio Days Asia, qui a eu lieu pour la première fois en Asie, a présenté des dizaines de conférenciers de divers aspects de l'industrie de radio, ainsi que des centaines de participants. Dans ses remarques, le fondateur de Radio Days Europe et Radio Days Asia, Anders Hall, espérait que Radio Days Asia 2019 pourrait présenter une meilleure radio pour les auditeurs.
Radio Days Asia is here today. Now we are joining hands to create this.
Maintenant, nous nous unissons pour faire de ce nouvel événement professionnel un lieu où les radios se rencontrent en Asie, dans le monde. Je suis sûr que nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous aspirons mutuellement développer notre contenu et nos activités et aussi présenter une meilleure radio pour les auditeurs à la fin de cette année. La conférence Radio Days Asia 2019 comprend plus de 30 sujets. Les sujets abordés ont principalement discuté de l'avenir de la radio, de l'utilisation des médias sociaux pour la radio, la présence de podcasts, de fausses informations et de l'état de la radio dans divers pays. le seul orateur d'Indonésie sur Radio Days Asia 2019 était l'annonceur sur une des radios privées de Jakarta, Kemal Mukhtar, avec deux autres diffuseurs, à savoir Mehdi Barber de Singapour et un astronome de Malaisie. Kemal a discuté du processus de production du programme de diffusion du matin, les derniers jours de Radio Days Asia 2019. Nous passons maintenant au mois de septembre. Le 6, le président Joko Widodo a inauguré l'usine automobile PT Solo Manufacture Kreasi SMK à Sambi Boyolali, dans le centre de Java. Lors de l'inauguration, le président directeur de PT Solo Manufacture Kreasi, Edi Wirajaya, a expliqué au président que l'usine et les installations d'SMK étaient réalisées par les enfants du pays. Avant d'inaugurer l'usine SMK, le président a déclaré que la présence de l'usine SMK dans le centre de Java, en particulier à Boyolali, aurait un effet important pour les mouvements économiques. En effet, SMK sera en mesure de fournir un effet de chaîne pour d'autres industries locales de fournisseurs automobiles. À partir du niveau intermédiaire à petite échelle jusqu'au niveau de la maison. Le 11, le président Joko Widodo a officiellement inauguré la 37e conférence de la Fédération des organisations d'ingénieurs de l'ASEAN à Jakarta. Dans ses remarques, le président Joko Widodo a salué l'émergence de l'accord entre les ingénieurs de reconnaissance dans les pays de l'ASEAN, qui permet une similitude des normes de compétences et facilite la mobilité entre les ingénieurs de l'ASEAN entre les pays. Le président a souligné l'importance de la coopération des ingénieurs dans l'ASEAN, afin que l'ASEAN joue un rôle central dans le développement de l'innovation mondiale à l'avenir.
Saya berharap kita memegang peran sentral dalam mengembangkan inovasi-inovasi ini ke depan.
J'espère que nous jouerons un rôle central dans le développement de ces innovations à l'avenir. Par conséquent, je salue la tenue de la conférence internationale CAFEO 37 afin qu'il y ait entre nous des idées, des expériences, des technologies et des meilleures pratiques, et afin de créer de nouvelles innovations qui peuvent accélérer les progrès des pays de l'ASEAN. À cette occasion, le président Joko Widodo a reçu le prix de mécène honoraire distingué de la FEO. Ce prix a été décerné au service du président pour leur contribution à la construction d'infrastructures utiles à la communauté. Le même jour, le troisième président de la République d'Indonésie, Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, a respiré son dernier à l'hôpital de l'armée centrale RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Le président Joko Widodo, lors de sa visite à l'hôpital militaire de Gatot Subroto, a déclaré que le gouvernement et tout le peuple indonésien étaient désolés du décès de B.J. Habibie. Le président espère que les idéaux de B.J. Habibie au cours de sa vie peuvent se poursuivre.
La suite en octobre, la première, on a inauguré 575 membres de la Chambre des représentants indonésiennes ou en Indonésie, Dewan Perwakilan Rakyat ou abrégé en DPR, des résultats des élections générales de 2019 dans le bâtiment du Parlement Jakarta. La procession d'inauguration a commencé par la lecture du décret présidentiel numéro 98/P/2019 concernant l'inauguration des membres du DPR au cours de la période de 2019 à 2024 par le secrétaire général du DPR, Indra Iskandar. À cette occasion, on a également inauguré 711 membres de l'Assemblée consultative du peuple, ou en Indonésie, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ou abrégé en MPR, pour la période de 2019 à 2024. Ils étaient 575 membres du DPR et 236 membres du Conseil régional de représentation, ou Dewan Perwakilan Daerah, ou DPD. L'inauguration des membres du DPR ou MPR a été assistée par le président Joko Widodo et le vice-président Yusuf Kalla. Le 3 octobre, le MPR indonésien a tenu une session plénière pour l'inauguration du président des MPR de 2019 à 2024 au bâtiment MPR ou DPR Jakarta. La réunion plénière présidée par le président provisoire Abdul Wahab Dalimonte a réuni 383 de 711 membres. Élu par acclamation, Bambang Susatyo en tant que président de MPR de 2019 à 2024. Le 20 octobre, serment du président et vice-président indonésien Joko Widodo Ma'ruf Amin pour la période de 2019 à 2024 dans le bâtiment de MPR ou DPR de Jakarta. Le 23, le président Joko Widodo a inauguré deux ministres et deux fonctionnaires de niveau ministériel dans le cabinet indonésien avancé, ou en Indonésie, cabinet Indonésia Maju, pour la période de 2019 à 2024 au palais présidentiel de Jakarta. L'inauguration a été inscrite dans le décret du président de la République d'Indonésie concernant la création du ministère d'État et la nomination des ministres d'État pour le cabinet indonésien avancé pour la période de 2019 à 2024. En outre, il comprend également la nomination du procureur général, du secrétaire de cabinet, du chef du personnel présidentiel et du chef de l'agence de coordination des investissements. Les ministres et les fonctionnaires de niveau ministériel du cabinet indonésien avancé comprennent, entre autres, le ministre de coordination des politiques, du droit et de la sécurité, le ministre de coordination des affaires économiques, le ministre de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, et le ministre de coordination du développement humain et de la culture. Toujours à la même date, le président Joko Widodo, accompagné du vice-président Ma'ruf Amin, a annoncé la composition de son nouveau cabinet au Palais Merdeka à Jakarta. À la fin de l'annonce, le président Joko Widodo a rappelé à ses ministres de travailler sérieusement et d'éviter la corruption.
Kabinet yang tadi sudah saya umumkan, untuk yang pertama, jangan korupsi, yang pertama.
Pour le cabinet que j'ai annoncé, tout d'abord, ne soyez pas corrompus. Créez un système qui ferme les lacunes de la corruption. Deuxièmement, il n'y a ni vision ni mission du ministre. Ce qui existe, c'est la vision et la mission du président et du vice-président. Troisièmement, nous devons tous travailler rapidement, travailler dur et travailler de manière productive. Le quatrième, ne soyez pas pris au piège dans la routine monotone. Cinquième, travaillez sur de vrais résultats. Le sixième, vérifiez toujours le problème sur le terrain et trouvez la solution. Enfin, tout doit être sérieux au travail. Le président a nommé son nouveau cabinet, Cabinet Indonésia Maju, ou en français le cabinet indonésien avancé. Il y a 4 ministres de coordination et 30 ministres, plus le procureur général, le secrétaire du cabinet, le chef de cabinet présidentiel et le chef du conseil de coordination des investissements qui aideront le président pour les 5 prochaines années. Le 25, le président Joko Widodo a inauguré le vice-ministre au cabinet indonésien avancé. Il y a 12 personnes qui ont été vice-ministres dans 11 ministères. L'inauguration a eu lieu au palais présidentiel de Jakarta. Le 31 octobre, le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a signé le document du protocole de l'ANASE sur le mécanisme de résolution des litiges à Bangkok, en Thaïlande. Le document a été signé par les ministres de l'économie de 10 pays membres de l'ANASE qui font partie d'une série d'activités du 35e sommet de la NASI. Le ministre Agus Suparmanto a déclaré que le mécanisme de résolution des litiges facilitait la communication entre les pays de la NASI en cas de différend avant de passer à un niveau supérieur. Depuis lors, le protocole a continué de croître, passant de 46 accords à 105 accords. Au même jour également, lors d'une réunion du Conseil de la communauté économique de la NASI, l'Indonésie a soulevé plusieurs questions importantes, notamment l'économie numérique et la révolution industrielle 4.0. La délégation indonésienne, dirigée par le ministre de la Coordination de l'économie Airlangga Hartarto à Bangkok en Thaïlande, a proposé que les questions industrielles 4.0, qui étaient très larges et intersectorielles, puissent être traitées par des institutions sectorielles traitant l'industrie dans le cadre du Conseil de la communauté économique de la NASI. On doit approfondir le mécanisme de cette question, y compris la nécessité de modifier la charte de la NASI pour l'adapter. Nous entrons en novembre. Le 2 novembre, le président Joko Widodo a assisté à la 35e session plénière du sommet de la NASI qui s'est tenue au Impact Exhibition and Convention Center Bangkok, Thaïlande. Le président Joko Widodo a exprimé son appréciation et ses félicitations à la Thaïlande pour son leadership en tant que président de la NASI en 2019. Le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a expliqué, après la réunion, que les dirigeants étaient d'accord et ont exprimé les mêmes espoirs de résoudre la négociation relative au partenariat économique régional global. Le président Joko Widodo a également parlé d'un certain nombre d'autres questions, telles que les efforts pour faire face à la crise humanitaire à l'état de Rakhine, au Myanmar, et le renforcement de coopération pour mettre en œuvre les perspectives de la NASI sur l'Indo-Pacifique. La suite, le 3 novembre, le président Joko Widodo, lors d'un discours au 22e sommet de la NASI de Chine, au Impact Exhibition and Convention Center de Bangkok, a encouragé le concept Indo-Pacifique en promouvant la collaboration. Le président a déclaré qu'en juin, la NASI avait ratifié les perspectives de la NASI sur l'Indo-Pacifique. Ces perspectives encouragent tous les pays de la région à privilégier la collaboration et à abandonner la rivalité. Selon le président Joko Widodo, depuis près de 3 décennies, le partenariat de la NASI Chine est une locomotive de paix et de stabilité dans la région. Le président espère que les perspectives de la NASI sur l'Indo-Pacifique pourront toujours encourager la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région Indo-Pacifique. Et toujours à la même date, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le rôle de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour relier les efforts de paix dans le monde avait reçu une appréciation particulière de la part des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui a accompagné le président Joko Widodo lors du 10e sommet de la NASI et l'Organisation des Nations Unies au Impact Exhibition and Convention Center à Bangkok. Au cours de la réunion, le président a encouragé le renforcement de la synergie entre la NASI et les Nations Unies pour montrer le rôle, les avantages et la contribution de la NASI à la communauté mondiale. Au même jour également, lors d'une réunion bilatérale avec le président Joko Widodo, directeur général du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou de la NASI, était à un point brillant de l'économie mondiale. La réunion entre le président et Kristalina se sont tenues en marge du 35e sommet de la NASI en Thaïlande. Le 4 novembre, le président de la Chambre des représentants indonésienne, Puan Maharani, a dirigé la délégation indonésienne lors de la réunion du président du Parlement du G20 organisée par l'Union interparlementaire pour la sixième fois à Tokyo. La réunion, qui était une collaboration entre l'Union interparlementaire et le Parlement japonais, s'est tenue dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale dû à la guerre commerciale. Puan a déclaré que le Parlement pourrait jouer un rôle pour l'augmentation du commerce inclusif, en particulier en termes d'accès et de participation des micro, petites et moyennes entreprises dans la chaîne de valeur mondiale, ainsi qu'en augmentant le rôle des femmes entrepreneurs. L'Union interparlementaire est une organisation qui rassemble les parlements des pays du monde pour mener des dialogues sur des questions d'actualité qui constituent un défi commun. Le 21, pour la première fois dans l'histoire, le président Joko Widodo a présenté cette jeune comme personnage spécial du président pour l'aider au gouvernement. Le président les a présentés au palais Merdeka à Jakarta. Ils ont 23 à 36 ans, ou la génération millénaire. Les 7 membres du personnel spécial sont Adamas Belfasha Devara, Aminuddin Ma'ruf, Angki Yudhistia, Putri Indah Sari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, et Gracia Billy Mambarasar. Le président Joko Widodo a déclaré que les 7 jeunes seraient ses partenaires de discussion. En outre, le personnel spécial du millénaire servira de lien entre le président et les jeunes étudiants islamiques et la diaspora de divers endroits. Le président espérait également que des innovations et des nouvelles idées de la part du personnel spécial afin que le président facilite la gestion du pays indonésien. Nous passons au dernier mois de 2019. Le 4 décembre, le directeur général de la résilience, du régionalisme et de l'accès à l'industrie internationale du ministère indonésien de l'industrie, Dodi Rahardi, à Jakarta a déclaré que l'Indonésie était le seul pays de la NASE sélectionné pour présenter la feuille de route industrie 4.0 lors de la plus grande exposition internationale annuelle dans le secteur des technologies industrielles, Hannover-Messe 2020. L'exposition se tiendra à Hanovre, en Allemagne, du 20 au 24 avril. L'élection de l'Indonésie en tant que pays partenaire de l'exposition a renforcé les relations économiques entre l'Indonésie et l'Allemagne.
Indonesia dipilih sebagai partner country. ASEAN cuma satu-satunya baru Indonesia.
On a choisi l'Indonésie comme partenaire de pays. De la NASE, il n'y en a qu'un. C'est l'Indonésie. Sur le thème de la transformation industrielle, on a estimé que l'Indonésie pouvait y parvenir en faisant de l'Indonésie 4.0 et sa politique dans cette direction. Ensuite, nous ajoutons une connexion supplémentaire pour accélérer. On espérait que nous pourrions attirer les investissements, la coopération technologique, puis la capacité et l'exportation. Bien sûr, nous avons une excellente promotion avec Hannover-Messe. On apportera 150 entreprises, 2 chefs d'État seront présents au pavillon indonésien, Angela Merkel et le président. Nous, en faisant l'Indonésie 4.0, voudrions la productivité de voix de la contribution de l'industrie pour la recherche de 0,3 à 2% du pays développé comme ça. Nous irons là-dedans. Nous faisons également partie du G20, ce qui signifie la reconnaissance. Dodi a ajouté qu'on a développé l'initiative Making Indonesia 4.0 pour reconstruire le secteur de l'industrie manufacturière indonésienne qui se concentre sur 5 secteurs, à savoir l'alimentation et les boissons, le textile, l'automobile, la chimie et l'électronique. En outre, l'Indonésie se concentre également sur le développement de l'économie numérique. Le 5 décembre, le président Joko Widodo a reçu une délégation du Conseil des affaires au Palais Merdeka à Jakarta. Le président a exprimé l'espoir que les acteurs économiques américains travaillent ensemble dans le secteur des infrastructures et des ressources humaines. Comme l'a rapporté RRI.co.id, le président Joko Widodo a déclaré que la présence des États-Unis profite non seulement à la NASA, mais également à la stabilité et à la prospérité dans la région Indo-Pacifique. L'investissement total des États-Unis en Indonésie atteint 1,2 milliard de dollars américains. Outre les investissements, les États-Unis sont également un partenaire commercial important pour l'Indonésie. Toujours à la même date, The Straits Times Singapore a décerné des prix à des dirigeants qui avaient une grande influence dans la région asiatique. L'un d'entre eux était le président indonésien Joko Widodo. Pour y répondre, le président Joko Widodo a déclaré que le prix en tant que figure asiatique de 2019 était un honneur pour l'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole présidentiel Fajrul Rahman à Jakarta. Comme l'a rapporté Média Indonesia, Fajrul a déclaré que ce prix témoigne du travail acharné du président Joko Widodo dans le développement de l'Indonésie ces dernières années. Il a ajouté que cette reconnaissance internationale serait le capital social du gouvernement dans la réalisation du développement des ressources humaines, des infrastructures, de la simplification de la bureaucratie et de la réglementation. Puis le 5 décembre, le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a ouvert le 12e forum annuel de Bali sur la démocratie qui a soulevé le thème de la démocratie et de l'inclusivité. Comme la cité Média Indonesia a expliqué le ministre Retno, le thème était cette fois basé sur l'étude du ministère indonésien des Affaires étrangères auprès de 209 pays et institutions. Il a expliqué que l'étude visait à déterminer la relation entre la démocratie et l'inclusivité, telle que mesurée par l'indice de la liberté 2018, l'inclusion mondiale 2018 et l'indice des États fragiles 2018. On parle de trois variables, à savoir la qualité de la liberté, l'inclusivité et la fragilité. L'hypothèse est « l'État n'est pas fragile s'il a une meilleure liberté et une meilleure inclusivité. À l'inverse, il est fragile s'il a moins de liberté et d'inclusivité. » Le Forum de Bali sur la démocratie a également mis en lumière la question de la participation des femmes. Selon la ministre Retno Marsudi, accroître le rôle des femmes est important dans la démocratie. Elle est très heureuse de voir prévu que 4 femmes ministres des Affaires étrangères interviennent dans un panel, à savoir de Namibie, d'Australie, d'Indonésie et du Kenya, qui discutera de l'inclusion des femmes dirigeantes et de l'état de la démocratie. Les 4 ministres des Affaires étrangères représentent 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Toujours le 5 décembre, le ministère des Affaires étrangères a collaboré avec des partenaires nationaux pour accroître l'aide aux pays en développement. À cet égard, lors du 12e forum de Bali sur la démocratie, on a signé 3 protocoles d'accord. Le directeur général de l'information et de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, Cecep Herawan, après la signature du protocole d'accord, il a déclaré que les 3 protocoles d'accord couvrant le domaine du renforcement des capacités des ressources humaines ainsi que les secteurs de petites et moyennes entreprises étaient les résultats concrets du 12e Forum de Bali sur la démocratie. La suite, le 11e décembre, le président Joko Widodo a encore rappelé à son personnel d'accélérer les négociations sur les accords de partenariat économique global avec les pays partenaires. Cela visait à encourager les exportations de produits indonésiens aux pays partenaires. Lorsqu'il a présidé la réunion restreinte du cabinet sur l'accélération de la mise en œuvre du programme de l'industrie et du commerce au bureau du président à Jakarta, a déclaré le président, Le gouvernement se concentre actuellement sur les efforts visant à maintenir une croissance économique positive, à réduire le déficit du compte courant et à accroître l'excédent de la balance commerciale. Le président a également demandé à son personnel de trouver de nouveaux marchés potentiels avant que les exportations de produits nationaux puissent continuer à augmenter.
Saya ingatkan lagi mengenai percepatan negosiasi perjanjian-perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif.
Je vous rappelle encore à l'accélération des négociations sur les accords de partenariat économique global ou CEPA, en particulier pour les pays potentiels. Le ministre du Commerce, la ministre des Affaires étrangères, si nécessaire, chasse toujours les pays potentiels qui exportent nos produits pour lesquels nous n'avons pas d'accord de partenariat. Puis un accord commercial avec l'Australie, nous sommes déjà avec l'Union européenne, les pays de la NASE, les membres de Regional Comprehensive Economic Partnership, ainsi que les accords avec les pays africains. Il doit accélérer tous. L'équipe de négociation doit également être très solide et continuer à négocier afin que la possibilité d'exporter des produits de notre pays tout puisse entrer dans le pays. C'est ce que nous devons cartographier et nous invitons les exportateurs à maximiser leur exécution. En outre, le président Joko Widodo a également souligné quelques devoirs qu'il devait faire au pays. Selon lui, il doit encore apporter de nombreuses améliorations, comme l'amélioration des réglementations qui entravent souvent la performance à l'exportation, de l'accès au financement des exportations et de la qualité des produits d'exportation. Le président a également souligné l'importance de préparer des zones industrielles orientées vers l'exportation et intégrées. On espérait que l'intégration pourrait accroître l'efficacité et la compétitivité des produits d'exportation nationaux. Le 12 décembre, le président Joko Widodo a demandé à l'industrie automobile indonésienne d'augmenter le volume des exportations automobiles nationales. Après avoir inauguré l'autoroute de Jakarta Cikampek 2, le président a déclaré que l'industrie automobile indonésienne devait commencer à concentrer la production automobile pour améliorer la performance à l'exportation. Le président souhaite également que l'Indonésie soit un pays de liaison pour la production automobile et les pays amis. Selon lui, pour soutenir l'augmentation des performances des exportations automobiles, l'industrie automobile a reçu le plein soutien du gouvernement. Donc, l'industrie automobile nationale peut augmenter les volumes d'exportation non seulement au marché traditionnel, mais aussi aux autres nouveaux marchés potentiels.
Ini saya sudah meminta kepada industri otomotif target-target yang tadi sudah.
Je demande à l'industrie automobile les objectifs que j'ai fixés, qui étaient maintenant 300 000 au cours de 3 à 4 prochaines années. Ils doivent augmenter jusqu'à 1 million, sa valeur de 8 milliards à 24 milliards de dollars américains. Autrement dit, l'industrie automobile du pays doit se concentrer sur les exportations. Nous avons fait de l'Indonésie un centre de production pour l'industrie automobile. L'infrastructure, la zone industrielle, le port pour les voitures sont prêtes l'année prochaine. Je pense que tout est prêt et la capacité installée est encore large de sorte que les exportations non seulement aux Philippines, mais à la NASE, à l'Asie de l'Est, au Moyen-Orient, à l'Afrique, aux marchés sur lesquels nous n'avons pas bien fonctionné pour nos produits d'exportation. Je pense que nous avons la possibilité d'aller aux marchés non traditionnels. Auparavant, lors de la publication de la première exportation d'Isuzu Straga à Karawang, Java de l'Ouest, le président Joko Widodo a déclaré que le gouvernement indonésien se concentrait au développement économique sur la réduction des importations et l'augmentation des exportations pour qu'on puisse réduire le déficit du compte courant afin que l'économie puisse croître positivement. L'industrie automobile devrait améliorer la performance à l'exportation, Le président espère que l'industrie automobile indonésienne pourra améliorer ses performances à l'exportation jusqu'à 1 million de véhicules en 2024. Le 18 décembre, le ministère indonésien de la Défense a approuvé la décision du ministère de la Main-d'œuvre de faire des travailleurs migrants indonésiens comme des ambassadeurs de la Défense nationale. Selon Antara, le sous-ministre de la Défense, Sakti Wahyu Trenggono, après avoir assisté au point culminant de la Journée internationale des travailleurs migrants 2019 à Malang, Java de l'Est, a déclaré que les travailleurs migrants représentaient le visage de la nation à l'étranger. Ils sont les patriotes de la nation car ils ont apporté des devises à l'Indonésie et ont des dispositions relatives à l'Indonésie, de sorte que nous avons raison d'en faire des ambassadeurs de la défense nationale. Selon lui, les travailleurs migrants indonésiens sont des ambassadeurs indonésiens à l'étranger qui ont le noble devoir de porter la bonne réputation de l'État indonésien. Le 19 décembre, le ministre indonésien de coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD, a assuré que le gouvernement, par le ministère des Affaires étrangères, menait une diplomatie douce pour résoudre le problème humanitaire des Ouïghours vivant dans des camps dans la région de Xinjiang, en Chine. Basé sur les rapports d'Antara, Mahfud MD à Jakarta a déclaré que la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, avait pris les mesures nécessaires. L'Indonésie est toujours médiatrice et cherche une bonne voie, pas une confrontation. Il a rappelé que le gouvernement doit être plus objectif en voyant tous les problèmes, afin que grâce à une politique libre et active, il fasse de son mieux pour le bien de l'humanité. Chers auditeurs, c'était le Kaléidoscope 2019. Merci de votre attention.
C'était le Kaléidoscope de juillet à décembre 2019. Présenté par Mohamed Oudry et TV Shakila. Demain, nous présenterons le Kaléidoscope de sport de janvier à juin, présenté par TV Shakila.
Voice of Indonesia. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, écoutons maintenant l'Indonésie en couleur et magazine musical. Merci à tous et au revoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur. Et dans cette édition, je vais parler du festival Petit Dalang pour préserver la culture. Sept enfants ont participé au festival Petit Dalang à la régence de Banyumas, Java Central. Cette activité est pour préserver l'art traditionnel, notamment pour les milléniaux. Ce festival fait partie des activités du festival d'art populaire qui se tient à Umah Tahu Sumedang, Mang Eman, le village de Tambak Sogra, le district de Sumedang, la régence de Banyumas, jeudi 26 décembre 2019. Le président du Festival des Arts Populaires, Astri Yana Elsera, a déclaré que l'activité était un effort pour attirer les touristes dans la régence de Banyumas et préserver les arts traditionnels. Astri a ajouté que maintenant les arts de Purwokerto, la régence de Banyumas, apparaît rarement au public. C'est pourquoi il a organisé cette activité. Pour la première fois, l'art des dalang était contesté, à savoir les petits dalang et les adolescents dalang. Dans le monde de dalang, le dalang est défini comme quelqu'un qui possède une expertise particulière dans le jeu de marionnettes. Au Festival d'Art Populaire, on présente aussi l'art de Lenger, de Cantongan, et lors de l'événement le samedi, il y avait des arts de la marionnette. Ce concours de petites et adolescentes d'Alain vise à réinstaurer des valeurs nobles chez les enfants et les adolescents qui sont actuellement accros aux gadgets et Internet. Ce festival des arts s'étonne comme le début des activités à Oma Tahu Sumedang, qui sera plus tard utilisé comme centre artistique de petites et moyennes entreprises de Banyumas. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter une chanson indonésienne. Et dans cette édition, nous allons vous présenter une chanson chantée par Indah Nefertari. Elle a sorti son 8e single intitulé « Modus Licikmu ». Cette chanson est écrite par Ilham Basso et Indah Nefertari. L'arrangement musical de cette chanson est une combinaison entre EDM et arabe. Les paroles de cette chanson sont inspirées de l'histoire personnelle de Indah Nefertari. Cette chanson raconte une relation d'amour d'un couple dans laquelle l'un d'entre eux ne profite que la condition de son partenaire. Bon, chers amis, avant d'écouter cette chanson, d'abord je vais saluer l'auditeur d'Algérie, Lassas Omar, à BP530, Bureau de Poste Emir AEK, 29008, Mascara, Algérie. Merci pour le message le 27 décembre. Et je vais lire son message. Bonne et heureuse année 2020. Bonsoir, chers amis, l'équipe du service français de la Voix de l'Indonésie. J'espère que vous allez très bien et être tous en bonne santé. Tout d'abord, je voudrais vous envoyer mes félicitations à l'occasion de cette nouvelle année et je vais réjouir de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à chacun d'entre vous pour vos belles familles, vos proches et ceux qui vous sont chers, ainsi qu'à tous les auditeurs du service francophone de RRI World Service. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que l'an 2020 soit lumineux, prospère et doux et plein d'enthousiasme, d'énergie et dynamisme, et qu'il soit synonyme de progrès et réussite personnelle et professionnelle dans tous vos projets. Et je souhaite aussi cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, espérance, paix, joie et tant d'autres belles choses. Et je profite de cette occasion pour vous remercier chaleureusement et de vous témoigner de ma sincère reconnaissance et ma gratitude pour tous les moments agréables qu'on a passés accompagnés par votre aimable station et pour tous vos efforts déployés au long de cette année. Et j'espère que vous fassiez tout votre possible afin de continuer à satisfaire vos auditeurs pour l'année 2020, en espérant que notre relation d'amitié se révélera encore plus riche et épanouissante qu'elle ne l'a été cette année. Et bonne et heureuse année 2020. Merci pour l'auditeur d'Algérie pour le message. Et meilleures salutations à notre ami en France, Paul Jamet, à Bat B, Saint-Roux, Poupard, 95290, Lissel Adam, Jean Barba, à 168 Avenue de Stade, 63110, Beaumont, en France. Et aussi, je vais dire bonjour à Maurice Mercier, à 537 rue François Guiraud, 69400 Villefranche sur Saône la France et comment va Abdul Kader Khalil à BP 669 Ourgla Algérie. Je veux dire aussi bonjour à Nak Moussi Noiri BP 154 bis Setif 19000. Merci pour le rapport d'écoute que vous avez envoyé. Comment allez-vous, chers auditeurs? Je vous remercie d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie. Et c'est la fin de ce courrier. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé les bulletins de réception. C'est agréable de pouvoir m'en tenir avec vous aujourd'hui. Cette émission est maintenant terminée. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bon, écoutons maintenant une chanson de Indah Nefertari intitulé Modus Licikmu. Merci à tous et au revoir.
Kulihat kamu sudah ku tahu kau tak ingin cintaku terlihat jelas tata paritu hanya mengandung nafsu untuk memelukku oh, 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 oh. Ku tak tertipu sampai aku jatuh ke pelukanmu.